Bonjour à tous. Nous prenons nos Bibles en Malachie. Malachie au chapitre 4. Donc Malachie qui est le tout dernier livre de l'Ancien Testament. Donc Malachie au chapitre 4. Et en fait, c'est le dernier chapitre du dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, donc chapitre 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants, des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. La personne de Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste, est traditionnellement associée à la célébration de Noël. Le récit de la nativité qu'on trouve en Luc chapitre 1 commence tout d'abord par une longue section sur les conditions de la naissance de Jean-Baptiste annoncée à Zacharie par l'ange Gabriel, le même ange qui va ensuite annoncer quelques mois plus tard à Marie qu'elle sera la mère de Jésus. Les vies de Jésus et de Jean-Baptiste sont liées dès avant leur naissance, puisque Jean tressaillit d'allégresse dans le ventre d'Élisabeth, lorsque celle-ci rencontre Marie qui, elle, porte en son sein Jésus. Mais surtout, comme nous le verrons, une grande partie du ministère de Jean, en fait l'essentiel du ministère de Jean, est d'annoncer la venue de Jésus, ce qu'on appelle sa première venue. Et cette première venue, c'est le cœur de la célébration de Noël. Et c'est pourquoi, en ces temps proches donc, de la fête de Noël, nous voulons méditer sur la personne de Jean. Nous n'allons pas étudier en détail le texte que nous avons lu, toutefois j'aurai l'occasion d'y revenir. Je me contenterai pour l'instant de noter que ce texte est un des trois grands textes d'annonce de Jean dans l'Ancien Testament. Notamment, on le trouve également au début de Malachie, chapitre 3, au début de Malachie 3, et le début d'Ésaïe 40. Un grand professeur de théologie qui est mort il y a quelques années avait l'habitude de jouer un petit tour à ses élèves. Et il leur demandait qui était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Qui pour vous était le plus grand prophète de l'Ancien Testament? Et les uns disaient Élie, d'autres Ésaïe, d'autres encore Moïse. Mais la bonne réponse à cette question, c'est que le plus grand prophète de l'Ancien Testament était Jean-Baptiste. Et cette réponse nous est donnée par Jésus lui-même. Et je vous demande de tourner dans vos Bibles à Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, au verset 7. Matthieu chapitre 11, au verset 7. Matthieu 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous le voulez comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Car tous les prophètes et la loi, dit le texte, ont prophétisé jusqu'à Jean. La loi doit être ici entendue comme étant l'ensemble de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et donc Jean, il est classé par Jésus comme faisant partie des prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus nous dit qu'il n'y en a pas eu de plus grand que lui pendant cette période parmi ceux qui sont nés de femmes. Il est donc le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament et nous essaierons de comprendre pourquoi. On a toujours tendance en fait à sous-estimer Jean-Baptiste, sous-estimer sa personne. Il y a une bonne raison à cela, sur laquelle nous reviendrons aussi, c'est qu'en fait, Jean fit tout pour s'effacer devant Christ. Jean fit tout pour s'effacer devant Christ, mais il fut pourtant un personnage très important. Tout d'abord, il y a une abondance de versets dans les évangiles sur Jean, bien plus que sur la plupart des apôtres. On a tout le récit de sa naissance, qui occupe une bonne partie de Luc chapitre 1, avec l'histoire détaillée de Zacharie et d'Élisabeth, le cantique de Zacharie, la venue de l'ange, le cantique de Zacharie. Jean occupe une part importante du chapitre 1 de l'évangile de Jean, l'évangéliste, et toute la fin du chapitre 3 également. Le ministère de Jean est rapporté en Marc, Luc et Matthieu. Le récit de ses démêlés avec Hérode et de sa mort est raconté également en détail en Matthieu, Marc et Luc. Et enfin, Jésus parle de Jean à de nombreuses reprises. Mais ensuite, Jean jouissait à son époque d'une très grande popularité en Israël, donc de son vivant. Luc 3,7 dit que les gens venaient en foule pour être baptisés par lui. Et Marc 1,5 dit que tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. On voit aussi que toutes sortes de personnes venaient à lui, des gens ordinaires, des collecteurs d'impôts, des soldats romains, des pharisiens et des scribes. Et quand on regarde la littérature extra-biblique de l'époque, notamment un très grand historien qui s'appelait Flavius Joseph, il cite de façon assez détaillée le personnage de Jean-Baptiste. Jean était donc un prophète et il partageait avec les prophètes plusieurs traits importants, donc avec ses prophètes de l'Ancien Testament. Et j'en note trois. Premièrement, il annonçait le jugement à venir. Jean annonçait le jugement à venir. Deuxièmement, il appelait le peuple à la repentance. Et troisièmement, il annonçait la venue du Messie. Mais la grande différence de Jean avec les prophètes de l'Ancien Testament, c'était l'imminence des événements qu'il annonçait. C'est-à-dire que les événements qu'il annonçait allaient arriver incessamment, peu comme on dit. Les prophètes annonçaient la venue du Messie dans un avenir lointain. Jean l'annonce pour maintenant. Donc les horizons, en quelque sorte, se télescopent. Et en fait, celui que Jean annonce, il est déjà parmi eux. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé Jésus en abondance. Par exemple, fameux passage, Ésaïe chapitre 9, verset 5, un verset tant cité à Noël, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ou le même prophète Ésaïe a également abondamment parlé de Jésus dans ce qu'on appelle les cantiques du serviteur souffrant, le plus célèbre étant Ésaïe 53. Jérémie également a parlé de Jésus, je lis pour vous, Jérémie 33, 15 et 16. « En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. » David a parlé beaucoup de Jésus dans ses psaumes, et le psaume 22, évidemment, n'est pas le moindre, qui décrit en fait la crucifixion de Jésus. Moïse a parlé de Jésus, puisque Jésus lui-même dit en Jean 5, 46, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » Jacob a parlé de Jésus dans sa bénédiction en Genèse 49, 10, il l'appelait le Shiloh, et également, il a évoqué l'image du lion de la tribu de Juda qui est repris dans l'Apocalypse. Michée a parlé de la naissance de Jésus en Michée 5, verset 1. Donc il y a énormément, les prophètes ont énormément annoncé la venue de Jésus. Mais tous ces prophètes voyaient les choses dans le lointain. Ils les voyaient comme dans un horizon brumeux sans savoir quand elles arriveraient. Est-ce que c'était dans un an, dans un siècle ou dans 1000 ans? Ils ne le savaient pas. Mais Jean, lui, non seulement il a annoncé la venue de Jésus, mais il l'a vu. Et non seulement il l'a vu, mais il l'a introduit, il l'a présenté à ses disciples en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et comble de toute chose, lui, Jean, qui ne se considérait pas digne de délier les courroies des sandales de Jésus, il est allé jusqu'à le baptiser dans les eaux du Jourdain. Et c'est en cela que Jean peut être considéré comme le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Alors Jean, il a lui-même été prophétisé dans l'Ancien Testament. Dans le texte de Malachie que nous avons lu tout à l'heure, au verset 5, chapitre 4, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Il y avait une grande attente d'Élie parmi les Juifs de ce temps-là à cause de cette prophétie. J'ai même entendu dire que de nos jours encore, les Juifs pratiquants gardent une chaise vide à leur table lors de certaines de leurs cérémonies et cette chaise, elle est pour Élie. Quand les scribes vinrent s'enquérir de qui était Jean, ils lui demandèrent « Es-tu Élie ?» L'ange Gabriel dit de lui à Zacharie son père, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Et enfin Jésus dit de lui, on l'a lu tout à l'heure, « C'est lui l'Élie qui devait venir. » Élie avait été un grand prophète de l'Ancien Testament. Israël était tombé à cette époque dans une profonde idolâtrie sous le règne d'Achab et de sa femme Jézabel. Et tous les prophètes fidèles à Dieu étaient persécutés, sévèrement persécutés. Mais Élie tenait tête à Achab. Et c'est Élie qui avait empêché la pluie de tomber pendant 3 ans sur le pays d'Israël. Et c'est encore lui qui avait défié les prêtres de Baal et qui avait fait venir le feu de Dieu sur l'autel. Et le peuple d'Israël de cette époque s'était détourné de Dieu. Élie dit qu'il clochait des deux pieds, voulant dire en fait qu'il rendait à la fois un culte à Dieu et un culte à Baal, sans bien savoir entre lesquels des deux choisir. Mais par cet événement spectaculaire du feu sur l'autel, Élie avait montré au peuple qui était le seul vrai Dieu. Et le texte nous dit que quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » 1 Rois 18:30. On peut dire que Élie accomplit un ministère de réveil, et c'est aussi la mission de Jean, un ministère de réveil dans le peuple d'Israël, afin de préparer la venue de Christ. Et Jean accomplit ce ministère avec la puissance, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Le livre de Malachie, donc j'ai dit que Malachie effectivement annonçait au chapitre 3, verset 1, il annonce également Jean et il dit ceci, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Donc on sait que ce texte parle de Jean parce qu'il est cité in extenso, tel quel, en Marc, chapitre 1, verset 2, à propos de Jean. Et j'ai dit qu'il y a un autre texte similaire qu'on va lire, si vous voulez bien prendre vos Bibles, qui se trouve en Ésaïe 40, chapitre 40, verset 3, à 5, Ésaïe chapitre 40, verset 3 à 5. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Imaginez en ce temps-là, où il n'y avait pas de route, comme on a aujourd'hui, des belles autoroutes, tout était probablement des chemins caillouteux, un grand monarque vient visiter son peuple. Et pour ce monarque, et tout son entourage, et les chars, et toutes ces choses qui viennent avec lui, on prépare une route bien plane pour lui en faisant des travaux de terrassement. On construit des ponts pour enjamber des vallées, on rase des collines. Et bien aujourd'hui encore, même quand un dirigeant de pays étranger vient nous visiter, ou le président lui-même, on bloque les avenues, il y a un cortège de motards qui l'ouvre la route. Alors évidemment, les gens ne parlent pas dans cette image d'entreprendre des travaux de terrassement pour la venue de Jésus. C'est une image. Mais de quoi est-ce l'image ? C'est l'image du repentir. C'est l'image du repentir. Les montagnes, les collines, les coteaux, les défilés étroits, ce sont nos péchés. Et comme je l'ai dit également, la prédication du repentir était une grande caractéristique de beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament. Si vous prenez une concordance et si vous cherchez le verbe « revenez », vous trouverez des versets utilisant ce verbe dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Zacharie, Malachie. Et ces versets, ils ont tous la même teneur. Et je cite à titre d'exemple un verset d'Ézéchiel 33:11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Ou encore, Jérémie maintenant, qui dit ceci, chapitre 18, verset 11, « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. » C'est ça le repentir, revenir à Dieu et changer de conduite, revenir de sa mauvaise voie. Il est dit que Jean prêchait le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Le concept de baptême n'était pas étranger aux Juifs. Quand un païen, donc un non-juif, se convertissait au judaïsme, ce qu'on appelait donc un prosélyte, il devait être baptisé. Le païen est considéré par les Juifs comme étant impur, et le baptême était une image du lavage de son impureté. Mais pour les Juifs, il était très choquant d'envisager de baptiser un juif, parce que les juifs se considéraient comme purs. Ils n'étaient pas des païens impurs, ils étaient des fils d'Abraham. C'est pourquoi Jean leur dit, en Luc 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Et donc voilà, Jean leur dit, « Christ vient. » Il dit ça à tous ces juifs. « Christ vient et vous n'êtes pas prêts. Tout juif que vous êtes, tout fils d'Abraham que vous êtes impur. Vous êtes souillé par le péché. Vous devez vous repentir. Et votre repentir doit être authentique. Et pour cela, vous devez porter des fruits dignes de la repentance. Vous devez changer de conduite. » Et enfin, la venue de Christ que Jean évoque est surtout une venue en jugement. Un jugement qui semble imminent. Luc 3, verset 7. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Déjà, même la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Luc 3, verset 9. Et encore, Luc 3, verset 17, il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Les images qu'utilise Jean sont très parlantes. La cognée, c'est-à-dire la hache, est à la racine de l'arbre. Imaginez un bûcheron qui, avec sa hache, a profondément entamé un arbre. À sa racine, il est prêt à donner le dernier coup, et l'arbre sera coupé et jeté au feu. Ou l'image du paysan, cette autre image, son vent à la main qui sépare la paille et le son du bon grain. Et la paille, il en fait un grand tas et on la brûle. Écoutez Malachie que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 4. Écoutez ce qu'il dit dans ce même chapitre où il annonce la venue de Jean. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine, ni rameau. Et l'exhortation de Jean n'est pas très différente de celle des autres auteurs de l'Ancien Testament, comme Paul ou comme Pierre, par exemple, dans des discours d'évangélisation. Je lis pour vous Paul, acte 17, versets 30 et 31, donc des versets qu'il a prononcés devant ce qu'on appelle la colline de Mars ou l'aéropage en grec à Athènes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et Pierre, en acte 2, versets 37 et 38, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le discours de Pierre, de Paul et de Jean sont des discours d'évangélisation. Dans les trois cas, ces hommes de Dieu parlent à des foules non converties. Jean parle à des Juifs qui se voyaient comme des descendants d'Abraham, n'ayant pas besoin de repentir, mais qui en fait n'étaient pas des vrais croyants. Pierre parle à des Juifs à Jérusalem lors de la Pentecôte qui venaient de crucifier Jésus. Et Paul parle à des païens à Athènes. Mais on retrouve chez Pierre ou chez Paul trois points qui se trouvent également chez Jean. Le jugement à venir, la nécessité de repentir et le baptême pour le pardon des péchés. Alors le repentir et le baptême se trouvent chez Jean et Pierre. Le repentir et le jugement à venir se trouvent chez Jean et Paul. Une erreur que fait sans doute Jean, c'est de croire que la venue de Christ va se traduire immédiatement par le jugement. Il fait sans doute une erreur de perspective. Il a tout à fait raison que Christ viendra en jugement. Mais ce qu'il ne semble pas savoir, c'est que ce sera l'objet de sa deuxième venue. Et c'est un petit peu, vous savez, quand vous regardez des montagnes vues de la plaine. Je me rappelle me trouver dans la ville de Chambéry en France, en Savoie, et voir devant moi les montagnes des Alpes. Avec une première chaîne de montagnes, puis une deuxième chaîne de montagnes, puis une troisième chaîne de montagnes à l'horizon. Tout ça devant moi. Et j'étais incapable de dire la distance qui séparait chacune des chaînes de montagnes. Est-ce qu'elles se touchent les unes les autres, ou est-ce qu'il y a entre elles des dizaines de kilomètres? C'est une erreur de perspective. Et c'est sans doute la cause de la confusion de Jean quand il pose cette question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu 11, verset 3. En fait, Jean, il voyait, comme moi quand je regardais ces montagnes, il voyait la prophétie sur un seul plan, en deux dimensions. En 2D, comme on dit. Mais en fait, dans sa vision, la venue de Jésus se passait en même temps que son jugement. Mais si on regarde ces chaînes de montagnes en 3D, alors on sait qu'entre la venue de Christ et le jugement, il y a au moins 2000 ans, puisque nous sommes encore là, et peut-être plus, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. Je voudrais que nous arrêtions quelques instants pour tirer des applications du ministère de Jean. Tout d'abord, en parlant d'évangélisation. Je ne sais pas quelle est votre vision de l'évangélisation, mais nous venons de voir quelle était la vision de Jean, qui était la même que celle de Pierre ou de Paul. Leur vision, c'était proclamer le jugement à venir pour amener le peuple au repentir. Proclamer le jugement à venir pour amener le peuple au repentir. Et on dirait qu'il est devenu malséant de parler de l'enfer, de parler des flammes de l'enfer. Et il faudrait évangéliser en disant « Jésus t'aime, il a un grand projet pour ta vie. » Mais ce n'est pas ce que nous lisons ici. Écoutez ce que Dieu dit par Jérémie. « Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. » C'est Dieu qui parle. Et Jean parle de la colère à venir et du feu qui ne s'éteint point. Comme Malachie, qui parle du jour ardent comme une fournaise, où les méchants seront embrasés comme du chaume. Et Paul dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par la justice. Quant à Pierre, il accuse tout simplement ses auditeurs d'avoir crucifié le Messie de Dieu. Rien que ça. Et quelle est la réaction de ceux qui les écoutent? Certes, certains se moquent, comme à Athènes. Il y a toujours des moqueurs, ils sont souvent la majorité. Mais il y a aussi ceux qui se repentent. Et ils sont parfois en masse quand il y a de grands réveils, comme à la Pentecôte, ou lors du ministère de Jean. Ils ont le cœur vivement touché, dit le texte, en acte 2. Et que disent-ils? Ils disent ceci. Que devons-nous faire? Luc 3, 10. Ou acte 2, 37. Hommes frères, que ferons-nous? Et la réponse est la suivante. Repentez-vous. Repentez-vous. Alors, frères et sœurs, si nous voulons évangéliser, si nous voulons faire de l'évangélisation, et ça commence d'abord et avant tout dans notre famille, avec nos enfants, n'essayons pas d'être plus intelligents que Jean-Baptiste ou Paul ou Pierre. Prêchons le jugement et le repentir. Il y a un autre enseignement, un deuxième enseignement que nous pouvons tirer de Jean, c'est la nécessité de porter du fruit digne de la repentance. Les gens viennent le voir et disent avec arrogance, « Nous, nous sommes des fils d'Abraham. » Et Jean ne leur répond rien d'autre que ce que Jacques dit en Jacques chapitre 2. « Prouvez-le par vos œuvres. Prouvez-le par vos œuvres. Portez du fruit digne de la repentance. » Frères et sœurs, la plupart d'entre vous dites que vous êtes chrétiens et que vous êtes nés de nouveau. Très bien. Mais est-ce que vous en portez les fruits? Est-ce que vous portez du fruit digne de la repentance? Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Prenons garde à ne pas être comme les pharisiens qui s'étaient endormis dans le confort illusoire d'être le peuple élu. Ne soyons pas comme ces juifs du temps d'Amos qui l'accusent de vivre tranquille dans Sion. Mais écoutons l'enseignement de Paul, qui encore une fois ne dit rien d'autre que ce que dit Jean. Acte 26, verset 20. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alors, je suis sûr que quelqu'un dira, très bien, Jean a prêché la venue de Christ en jugement et le repentir, mais a-t-il prêché l'Évangile? A-t-il prêché l'Évangile tel que nous le connaissons? Le salut en Jésus-Christ, sa mort à notre place, le fait qu'il ait pris sur lui tous nos péchés? Et je répondrai qu'il l'a certainement fait. Et il l'a fait de la façon la plus belle qui soit, en une seule phrase qu'il a prononcée en désignant Jésus à ceux qui l'entouraient près du Jourdain. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quelle magnifique proclamation de l'Évangile. Pour les Juifs, le concept d'agneau, il était beaucoup plus parlant que pour nous. Chaque famille en Égypte, dans leurs ancêtres, avait sacrifié un agneau et recouvert les linteaux des portes avec le sang pour détourner l'ange de la destruction. Et chaque jour dans le temple, un agneau était offert le matin et le soir en holocauste. L'agneau était par essence l'animal utilisé pour faire l'expiation des péchés. Mais ici, il s'agit de l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu offert en sacrifice. Nous savons, comme nous l'enseigne Hébreux, que le sang des animaux sacrifiés ne pouvait pas enlever les péchés. Sinon, comme le dit l'Épître, on n'aurait pas répété leur sacrifice jour après jour. Mais par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 14. Le baptême de repentance pour la rémission des péchés auquel Jean appelait les Juifs était une image. La rémission des péchés, elle était réellement effectuée par l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et cela, il l'a bien proclamé. Ensuite, Jean, il a proclamé l'Évangile, le fait que Christ enlève nos péchés. Et ensuite, il a prêché la foi. Jean le Baptiste a prêché la foi. La foi en Christ ne peut pas être dissocié de la repentance. Si quelqu'un vous parle de la foi sans parler de la repentance, il a tout faux. Vous entendrez souvent qu'il est dit, et c'est tout à fait juste, que la repentance et la foi, ce sont comme les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas les séparer. La repentance, elle consiste à tourner son dos au péché. Et la foi consiste à se tourner vers Christ. Imaginez que vous êtes dans une pièce. Devant vous, ou derrière vous, d'un côté en tout cas, il y a le péché, et de l'autre côté, il y a Christ. Si vous tournez le dos au péché, vous vous tournez vers Christ. Pour pouvoir vous tourner vers Christ, il faut tourner le dos au péché. Et c'est exactement ce que Jean enseignait quand il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, 2. Le royaume des cieux, c'est Christ, car il est le roi. Et Jean annonce la venue du roi et il dit au peuple « Pour recevoir le roi, vous devez tourner le dos au péché. » Enfin, toujours sur ce thème du fait que Jean le Baptiste est un annonciateur de l'Évangile, un proclamateur de l'Évangile, il y a une dernière chose que je veux dire, c'est que l'Évangile, donc la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement une information, la mort substitutive de Christ. Bien évidemment, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. L'Évangile, c'est une personne. L'Évangile, c'est une personne. C'est Christ lui-même avec tout ce qu'il caractérise. Son éternité auprès du Père, son amour pour son peuple, son incarnation, son obéissance parfaite en tant qu'homme, sa mort sur la croix pour nous, sa résurrection, le fait que tout pouvoir lui était donné, le fait qu'il soit roi, le fait qu'il soit chef de l'Église, sa deuxième venue dans la gloire, son jugement à la fin des temps et son règne qui n'aura pas de fin. Ça, c'est brosser de façon très rapide le Christ que Jean est venu annoncer. Et en cela, il a été un grand proclamateur de l'Évangile. Avant de conclure, sur Jean, j'aimerais faire deux remarques. J'ai parlé de cela tout à l'heure. La première remarque, c'est l'humilité de Jean. Quand Jean est venu, il y avait une immense attente. Les gens se demandaient réellement s'il était le Christ. Ainsi, Luc 3,15 rapporte que le peuple étant dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Mais Jean n'avait de cesse de s'effacer et leur répondait ainsi. « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus grand que moi, plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Luc 3,16. Les chefs religieux qui étaient envoyés de Jérusalem, ils l'interrogèrent aussi. Jean 1, 19 à 23. « Toi, qui es-tu ? » Il déclara, ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète ?» Il répondit non. Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Au passage, ne soyez pas surpris que Jean dise qu'il n'est pas Élie, alors que Jésus dit qu'il est Élie. En fait, Jean n'était pas la personne d'Élie, réincarné en quelque sorte ou ressuscité. Mais il était venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, comme l'avait dit Gabriel. Et donc vous voyez dans ces passages, encore une fois, l'humilité de Jean. De son point de vue, sa seule et unique mission, c'est d'annoncer le Christ. Et une fois qu'il a accompli cette mission, une fois qu'il a baptisé le Christ, il doit s'effacer. En fait, ce n'était pas la compréhension de certains des disciples de Jean. En Jean 3, 26, il est rapporté ceci, que les disciples de Jean vinrent trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Ces hommes se voyaient comme des disciples de Jean, pas de Jésus. Mais Jean n'est pas venu pour avoir des disciples. Il était venu pour préparer le chemin de Jésus. De même, en Matthieu 11, 2, on voit des disciples de Jean qui viennent poser une question à Jésus, alors que celui-ci avait commencé son ministère. Il n'y avait plus de raison qu'il y ait de disciples de Jean. Il paraît même que jusqu'à ce jour, il y a une secte en Irak de personnes qui se réclament de Jean-Baptiste. Mais ce n'était pas du tout l'intention de Jean. Il n'était pas venu fonder une religion. À ses disciples qui se plaignaient que tous allaient à Jésus, Jean répond cette phrase célèbre, « Il faut croisse et que je diminue. » Jean 3,30. Jean avait fini sa mission, il avait annoncé Jésus au monde, il l'avait baptisé et ainsi introduit dans son ministère terrestre. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à s'effacer. Et c'est un enseignement pour tous les pasteurs et les leaders religieux. Ils doivent s'effacer devant Christ. Et aussi, c'est un enseignement pour leurs disciples, qui doivent comprendre qu'ils ne doivent pas mettre leur chef spirituel au-dessus de Christ. Ils peuvent avoir des leaders spirituels. Mais il ne faut pas mettre le chef spirituel au-dessus de Christ. C'est exactement ce que Paul dit en 1 Corinthiens. Il y en avait qui se réclamaient de Paul, d'autres de Pierre, d'autres d'Apollos. Mais lui, il dit, qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur a donné à chacun. Et ça, c'est 1 Corinthiens 3,5, verset 21, il dit, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Et une deuxième remarque, avant de terminer. Je disais donc qu'une fois que Jean a eu fini sa mission, il était temps pour lui de se retirer. Il a servi jusqu'au bout, en donnant sa vie pour le Seigneur. Vous connaissez l'histoire, Jean avait repris Hérode au sujet d'Hérodias, sa femme, la femme de son frère, et il lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Marc 6, 18. Et cela n'a pas plu à Hérodias, donc la femme, et par l'intermédiaire de sa fille, elle obtint d'Hérode qu'il fasse exécuter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a tenu tête à Hérode, et en faisant cela, il a suivi la pratique d'un grand nombre de prophètes avant lui. Si vous regardez l'Ancien Testament, les prophètes, très souvent, tenaient tête au pouvoir en place. Moïse avec Pharaon, Élie avec Achab et Jézabel, Jérémie, qui a été jeté dans une citerne pendant le siège de Jérusalem, et même Nathan, le prophète, qui n'a pas hésité à reprendre David dans cette terrible affaire de Bathsheba, et il devait certainement avoir un petit peu peur lorsqu'il était allé le voir pour lui le dénoncer. Et en fait, cela pose la question du rapport de l'Église avec les autorités. Quelqu'un dira, mais je croyais que selon Romains 13, nous devions être soumis aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors, de quel droit Jean-Baptiste, Moïse, Jérémie, Élie se sont-ils opposés aussi clairement aux autorités? Et la réponse, elle se trouve dans le livre des Actes. Et on va y venir. Il ne fait aucun doute que les chrétiens doivent être des citoyens exemplaires, payer leurs impôts, respecter les limites de vitesse, ne pas poser de problème, servir leur pays et de façon générale avoir un bon témoignage pour Christ par leur comportement. J'ai lu que les Français, les protestants français au XVIIe siècle, lorsqu'ils étaient persécutés de façon vraiment terrible par les rois, étaient considérés comme des sujets exemplaires, à la surprise même de ces rois. Ils devraient en être de même de nous. Mais il y a une limite. Et cette limite, elle se trouve en Actes 4-19, où Pierre et Jean disent au Sanhédrin, en quelque sorte l'Assemblée nationale, ou le Conseil d'État, ce groupe d'anciens d'Israël qui veulent leur interdire de parler de Jésus, et leur dit « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et ils répètent en Actes 5-29, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Moïse, Élie, Jean-Baptiste, Jérémie, Nathan, ils avaient un mandat de Dieu et ils l'ont honoré en obéissant à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans un certain sens, l'Église est la conscience de la société. Chaque personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, a en elle une conscience qui lui a été donnée par Dieu. Cela est expliqué en Romains chapitre 2. Et quand quelqu'un pêche, sa conscience l'accuse. Et cette conscience, elle restreint le péché, même chez les incroyants. Les incroyants ont une conscience, ils savent très bien quand ils pêchent. Parce que la conscience les accuse. Et l'Église, elle doit jouer le même rôle dans la société. C'est un rôle qu'elle a joué tout au long de l'histoire, un rôle de conscience. Je cite des exemples, par exemple, en Angleterre, où je vis, à la fin du XVIIIe siècle, il y a un homme célèbre qui s'appelle William Wilberforce, un député, donc un homme politique, un député chrétien évangélique, parce qu'il y avait un très grand mouvement évangélique en Angleterre au XVIIIe siècle. Il est parvenu à faire interdire la traite des esclaves, ce qui était absolument extraordinaire. Et les évangéliques anglais de cette époque, et ça c'est très connu de l'autre côté de la Manche, ils ont une influence considérable dans un ensemble de domaines, tels que le travail des enfants, la prostitution, la lutte contre l'alcoolisme, etc. Dans notre siècle, tout récemment, les évangéliques américains depuis longtemps déjà ont lutté avec énergie contre l'avortement, et tout récemment ils ont remporté une immense victoire, puisque l'an dernier, la Cour suprême a renversé ce terrible jugement qu'on appelle Roe versus Wade, et en faisant cela, ils ont renvoyé la décision de l'avortement dans les États, et il y a beaucoup d'États aux États-Unis, je crois qu'il y en a 13 aujourd'hui, où l'avortement est interdit. Et donc, dans ce sens-là, l'Église est le sel de la terre. Mais cela a un coût. Et à Jean-Baptiste, ça lui a coûté sa vie. Alors, frères et sœurs, regardons près de chez nous. Qu'est-ce que nous, les chrétiens, je ne répondrai pas à la question, mais je vous la pose. Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire quand le président de la République veut inscrire l'avortement dans la Constitution? Qu'est-ce que nous devons faire? Réfléchissez-y. Je pense que sur le plan pratique, ce genre d'action doit être menée avec prudence et sagesse. Ce n'est pas donné à tout le monde d'aller parler au nom de Christ, au président et au ministre. Alors, je ne connais pas bien la situation en France, mais je peux vous donner un exemple en Angleterre où je vis. On a une organisation évangélique qui s'appelle le Christian Institute, donc l'Institut chrétien, qui rassemble tout un ensemble d'avocats chrétiens, des gens très brillants. Et ces gens-là, ils interviennent sur tout un ensemble de sujets auprès des parlementaires, donc ils ont une action auprès des parlementaires, dans les cours de justice. D'une part, pour faire valoir le point de vue chrétien quand les lois sont passées, et pour défendre des chrétiens qui ont été victimes de discrimination sur leur travail à cause de leur témoignage chrétien. Et bien que ce soit une association qui soit relativement modeste en taille, leurs résultats sont remarquables. Et les sujets ne manquent pas. Hein, et c'est les mêmes sujets des deux côtés de la Manche. Mariage homosexuel, phénomène transgenre, avortement, euthanasie, enseignement de la théorie du genre à l'école, liberté d'expression, liberté religieuse, et un sujet malheureusement qui est réservé à la France, la possibilité de faire l'école à la maison. Et il y en a plein d'autres, des sujets. Et ce sont sur ces choses que l'Église a agi de façon prudente, de façon intelligente. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, mais elle a agi dans toute l'histoire, et elle doit continuer à agir. Et frères et sœurs, si la société, en ce qui nous concerne, ce qui concerne chacun d'entre nous, si la société dans les pays occidentaux continue sur cette pente de paganisme et d'hostilité croissante à Christ, qui sait si certains d'entre nous ne seront pas appelés à rendre témoignage de leur foi chrétienne devant des tribunaux? Et puisse le Seigneur, si c'est le cas, nous donner d'être toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Voici, je suis arrivé à la fin de mon message, quelques mots de conclusion. La fête de Noël, c'est d'abord et avant tout la fête de la venue de Christ. La fête de Noël, c'est la fête de la venue de Christ, ce n'est pas la fête du Père Noël. C'est la fête de la venue de Christ. Et comme dit très bien ce magnifique cantique français, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu est descendu parmi nous pour effacer la tâche originelle et de son Père apaiser le courroux. C'est ça Noël. Et c'est exactement ce que Jean a proclamé et est venu annoncer. Mais Jean, comme on l'a vu, il avait en quelque sorte télescopé la première et la seconde venue. Mais nous nous trouvons dans cette vallée entre les deux chaînes de montagnes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si on regarde derrière nous, nous voyons Christ qui est venu mourir sur la croix pour nous. Si on regarde devant nous, on voit Christ qui viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et ce jugement que nous voyons devant nous, il est terrible. Il est terrible. C'est le châtiment éternel des flammes de l'enfer. C'est ça la chose qui est devant nous. Mais Dieu merci, cette vallée où nous nous trouvons, on pourrait l'appeler la vallée de la grâce. Nous sommes dans la vallée de la grâce. C'est un temps où Christ tend la main à tous les hommes et les appelle à se repentir et à mettre leur foi en lui pour le salut. Alors, c'est ce que je vous exhorte de faire tant qu'il est encore temps. Vous repentir de vos péchés. Comme Jean-Baptiste l'a proclamé, et mettre votre foi en lui. Et si vous vous dites chrétien, regardez à vos fruits. Portez-vous des fruits dignes de la repentance? Certainement pas autant que vous le devriez. Alors le repentir est aussi pour vous. On va prendre quelques minutes dans le plus grand silence, dans le secret de nos cœurs. On va penser à nos péchés. On va parler au Seigneur de nos péchés, tout simplement, chacun dans son cœur. Et on va lui demander de nous pardonner. On va se repentir de nos péchés et nous tourner vers Christ par la foi. Donc on va prendre quelques minutes, puis ensuite je conclurai par la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce ministère de Jean qui nous appelle à nous repentir. Nous te présentons nos péchés, Seigneur, dans notre cœur. Nous ne les avons pas tous cités, nous ne les connaissons même pas tous. Toi, tu les connais. Mais Seigneur, nous voulons avoir un cœur humble qui se tourne vers toi et qui te dit, Seigneur, je suis pécheur. Il y a en moi beaucoup de péchés, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, mais je te les confesse. Et Seigneur, je te demande pardon pour ces péchés. Je te demande de les laver à nouveau avec le sang de Jésus. Je te demande, Seigneur, de fortifier chacun d'entre nous afin que nous produisions du fruit digne de la repentance et que nous te glorifions par cela, que nous soyons tes fidèles serviteurs, que tu nous donnes, Seigneur, un bon témoignage dans le monde, que tu nous donnes de tenir ferme pour ton nom. Comme l'a fait Jean, même si ça peut être à notre Seigneur, veuille maintenant nous bénir, veuille bénir la fin de ce culte, veuille bénir cette journée qui t'est donnée, la journée qui t'appartient, le dimanche. Je te prie, Seigneur, au très saint nom de Jésus. Amen.